RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour les amis, c'est Alors on dit quoi sur RFI. Ce samedi, focus sur un secteur économique primordial pour l'Afrique, l'agriculture. La transformation des matières premières et le talent d'Achille de ce secteur d'activité pourtant stratégique. En dépit de l'abondance des ressources, chaque année, des milliards de dollars d'aliments transformés et de produits raffinés sont importés sur le continent. Face aux enjeux géostratégiques actuels, l'Afrique n'a désormais plus d'autre choix que de se nourrir en produisant et en transformant localement. Coton, café, cacao, noix de cajou, fruits tels que la mangue ou encore l'ananas. Il s'agit de transformer et maximiser la valeur des ressources naturelles. Développer l'industrie agricole n'est pas chose aisée, mais elle permet à la fois de créer de la valeur ajoutée tout en développant des échanges commerciaux. L'écologie, mais aussi la fierté de consommer africain sont également des facteurs de taille pour favoriser l'essor de ce secteur. De nombreux jeunes ont une véritable prise de conscience sur le besoin de développer les infrastructures de transformation sur place. C'est ce que nous allons voir avec nos invités du jour. Le pari de l'industrie agroalimentaire, c'est tout de suite dans Alors on dit quoi ? C'est parti !
Alors on dit quoi ? Avec Diaran Diaye.
Il milite pour une agriculture qui nourrit les populations et qui procure des revenus plus importants aux producteurs locaux. Je nomme Aissata Diakité, malienne, fondatrice du groupe Zaban. Zaban a notamment une grande gamme de jus de fruits 100% naturels. Merci infiniment d'être avec nous, Aissata.
Bonjour Chiara, je suis heureuse d'être là.
Un plaisir partagé. À nos côtés également Moulay Biaye, cofondateur des marques Casa Delice et Balanta Cosmétiques au Sénégal. La transformation de la noix de cajou n'a plus de secret pour lui. Bonjour Moulay.
Bonjour Diara, de la pomme de cajou et bonjour à tous les auditeurs de RFI qui nous écoutent dans le monde, particulièrement de la Casamance.
Et notre invité qui est également à nos côtés, Axel Emmanuel Baou, artisan chocolatier ivoirien, fondateur de la marque Le Chocolatier Ivoirien. Salivons ensemble en transformant la fève en délice. Bonjour Axel Emmanuel.
Bonjour, je suis très content d'être là.
Un plaisir partagé. Notre dernier invité en ligne depuis Dakar au Sénégal, Dr Cheikh Oumar Ba, chercheur associé et directeur du think tank africain IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Il est également président du réseau des think tanks de l'UMOA. Merci d'être avec nous, Dr Cheikh Oumar Ba.
Merci de m'avoir invité, avec plaisir.
Un plaisir partagé. Alors, Aissata Diakité, vous êtes ingénieur en agrobusiness, vous avez lancé Zaban, une gamme de jus de fruits 100% naturels, en se réappropriant les méthodes traditionnelles de votre enfance à Mopti, au Mali. C'est dans le centre du Mali, sur les bords du fleuve Niger. Alors, pourquoi l'agriculture est si importante pour nous, pour vous, pour nos économies africaines?
En fait, l'agriculture, c'est vraiment la base. Et la souveraineté de tout pays, c'est de se nourrir, nourrir son peuple. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je dis que c'est vraiment une chance parce qu'au Mali, on a certes cette particularité-là. En plus, là où je suis née, à Mopti, on a toutes les ethnies du Sahel jusqu'au Maghreb. Et par exemple, du côté mer, ma mère, elle est caractérisée par, elle est bozo, caractérisée par la pêche et la vente des produits dérivés du poisson. Et du côté de mon père, qui est peul, c'est le lait et la vache. Mmh. Donc, honnêtement, j'ai transformé cette force culturelle qui est issue du secteur agricole en une passion et pour devenir d'abord ingénieur en agrobusiness de formation. Et des études pointues dans ces secteurs-là. Donc, j'ai eu aussi à travailler dans le secteur de l'agroalimentaire. Et c'était tout à fait normal de répartir au pays et de valoriser ces produits locaux, étant donné que Zaban, même, c'est le nom du fruit le plus célèbre d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Mad au Sénégal, mm-hmm. Cocota en Côte d'Ivoire, avec un goût particulier. C'est un fruit qui a le réveil de réveiller les papilles gustatives à distance. Et c'est cette philosophie que Zaban utilise, c'est-à-dire valoriser tous ces produits qui sont souvent sauvages, qui ont beaucoup de vertus, qui ne sont pas connues, de les faire déjà et de les mettre à disposition sur le marché local et aussi les proposer sur le marché international.
Comment vous définissez l'univers de Zaban, en un mot?
Et l'univers de Zaban aujourd'hui, c'est beaucoup d'impact, c'est des valeurs. Et on est positionné sur toute la chaîne des valeurs agricoles. Et en travaillant vraiment à petite dose, on appuie et créer tout un modèle d'accompagnement et de structuration des filières en mettant des femmes au cœur de nos activités. Et donc aujourd'hui, on couvre près de 25 filières agricoles dans le Sahara, donc Mali, qui s'étend un peu plus sur le Sénégal, un peu au nord de la Côte d'Ivoire, à partir d'Odjeni, et aussi un peu le Sénégal. On valorise tous ces produits-là au niveau local avec une unité qu'on a mis en place à Bamako, qui emploie des jeunes, des femmes, donc des produits très bien packagés, avec un packaging très noble, qui respecte le consommateur africain sur son territoire et qui impressionne à l'international. C'est vraiment toute une philosophie derrière. Et l'objectif, c'est vraiment de faire réveiller tous ces consommateurs là, que ce soit sur le continent et ailleurs, avec nos produits qui aujourd'hui dépassent les jus, parce qu'on a toute une gamme de confitures d'ailleurs qui a eu le prix hier de la sélection agriculture du monde au Salon de l'agriculture de Paris. Et on a aussi une gamme de confits d'énergie boost, tisane, etc. Et voilà.
Un beau parcours. On reviendra bien entendu sur tout ce cheminement autour de Zaban. Moulay, vous, l'agriculture, c'est un peu un amour né à Sédiou, au centre de la Casamance au Sénégal. Et ça, c'est depuis votre tendre enfance. C'est intéressant de voir que malgré les défis et parfois la mauvaise image de l'agriculture, eh bien les jeunes s'y intéressent. On a même 80% de la population active sur le continent qui y travaille dans ce secteur. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer, Moulay ?
Alors Diarra, l'agriculture est dans mon ADN, comme tu l'as si bien dit. Moi, j'ai grandi en pleine campagne, dans un village à 50 km de Ziguinchor, 30 km de Sédiou. J'ai grandi en temps de guerre, en Casamance, en temps de conflit. Donc, malgré tout, j'ai eu à beaucoup travailler dans les champs. J'ai eu à planter une bonne partie des plantations d'anacardier que notre famille possède aujourd'hui, à participer plutôt. Et donc, tout jeune, je me suis posé cette question de savoir pourquoi, autour de l'anacardier, il n'y avait que l'anacarde qui était valorisée. Donc, j'ai toujours été un enfant curieux, toujours soucieux d'avoir de l'impact, de résoudre les questions de mon environnement proche. Et c'est pour cette raison que, à force de recherche et un parcours assez intéressant qui n'a rien à voir avec...
Vous étiez dans le milieu des finances, de banquier, vous êtes finalement
venu à l'agriculture.
Donc
j'ai pris la finance comme tremplin. Je voulais vraiment comprendre les enjeux parce que la finance, malheureusement, gouverne le monde aujourd'hui. Il faut comprendre un peu les enjeux liés à cette finance pour comprendre les enjeux liés à l'agriculture parce qu'elle est au cœur de tout. On a parlé de financement dès l'introduction ici. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi ce parcours-là. Néanmoins, je me suis entouré de personnes qui sont des personnes très compétentes. J'entreprends autour de Casa d'Élise et de Balanta Cosmetics avec mon épouse qui a une thèse de doctorat en génie des procédés de Imperial College et de l'école des mines d'Albi. Donc elle est la responsable technique de Casa d'Élise et de Balanta Cosmetics. Donc tout ça est important, comme l'évoquait tout à l'heure Aïssata, d'être à minima formé quand on entreprend dans le secteur de l'agriculture. C'est ce qui manquait à beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Et nous avons la chance autour de Casa d'Élise et de Valenta Cosmetics d'avoir créé cette synergie des compétences qui nous permet d'être à l'aise finalement dans tous les domaines, que ce soit de la technique à la finance, en passant par la partie commerce. Donc aujourd'hui, Casa d'Élise, c'est une gamme de jus de fruits, une marque qui est principalement connue au Sénégal pour le jus de pomme de cajou, qui est une innovation en soi, parce que c'est un jus qui est fait à partir de la pomme qui était jadis jetée. Un peu partout en Afrique, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est un fruit que l'on jette. Ça représente 90% du fruit qui constitue la noix et la pomme. La noix constitue que 10%. Et une aberration totale de jeter ces 90%. Pourtant, la pomme de cajou est un super fruit, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup de vitamine C, du magnésium, et aujourd'hui, en termes de classification à l'échelle mondiale, c'est dans la gamme des superfruits. Donc, Balanta Cosmetics, pareil, fait de la valorisation des huiles du terroir, telles que l'huile de Tulukuna, qui est une huile précieuse que l'on trouve en Casamance, donc une gamme de produits capillaires qui aujourd'hui permettent de magnifier les cheveux afro crépus et voilà. Et d'un point de vue impact, nous travaillons avec à peu près 240 femmes, un nombre qui va être porté à 500 dès ce mois de mars. Nous sommes installés dans la campagne, pas loin de là où j'ai grandi finalement, parce que je pense que l'Afrique...
L'entrepreneuriat du côté rural est très important pour vous.
Tout à fait.
Vital même, je dirais, puisque tout est concentré
c'est vraiment le cœur de notre vision. Nous pensons que l'Afrique, pour se développer, doit le faire avec le monde rural. Et nous devons aller à l'opposé de ce qu'on a connu jusqu'à présent en Occident ou ailleurs dans le monde, qui est de développer des centres urbains, de concentrer toutes les industries là-bas, de prendre des matières premières qu'on va transformer sur des kilomètres qui vont font perdre un petit peu les qualités à ces produits-là transformés. Donc nous prenons la création d'industries certes petites à taille humaine, mais qui sont au plus près des zones de collecte pour pouvoir faire des produits qui concentrent le maximum de fraîcheur.
On va parler de ces deux marques dans quelques instants. D'abord, donner la parole à Axel Emmanuel. Chaque année, il y a près de 30 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail en Afrique. Et l'agriculture, c'est peut-être la solution présentée pour absorber ce chômage. Les pays appellent à s'intéresser justement à l'agriculture. Vous, est-ce que vous conseillez à ces gens, à ces jeunes notamment, de faire la même chose ?
Oui, bien évidemment. Mais mieux de en plus de l'agriculture d'aller jusqu'à la transformation, parce que la plus-value est énorme et on a énormément d'emplois qui peuvent se créer et qui peuvent se greffer autour de la transformation. Moi je dis souvent que rien que le cacao en Côte d'Ivoire peut embaucher
En quelques chiffres cacao Côte d'Ivoire
2 200 000
voilà,
tonnes 2
millions
de production,
tonnes, premier producteur mondial de cacao
avec 1 million de planteurs, 3500 coopératives, c'est 40% des exportations du pays. Mmh. C'est vraiment une main
d'essence. Un chiffre qui fait pâlir, mais vous êtes artisan chocolatier, Axel Emmanuel. Je me suis penchée un peu sur cette question de l'agriculture. On va revenir en détail sur les difficultés de la transformation que vous venez de mentionner à l'instant, mais ouais. L'accès aux engrais, la problématique de stockage, la défaillance des infrastructures routières, les aléas climatiques, on a les obstacles nombreux avant même la transformation. Et puis, pendant la transformation, on a la problématique de l'accès au foncier, l'accès au financement, un savoir-faire industriel. On a l'impression que la tâche est impossible, elle est énorme, on ne sait même plus où se positionner. Donc oui, la transformation, mais à quel coût ?
Oui, à quel coût, effectivement. Aujourd'hui, je pense que souvent, entreprendre commence à être un peu plus simple qu'auparavant. Je prends un exemple, la DER au Sénégal, ils font des choses exceptionnelles.
Il y a des délégations à l'entrepreneuriat rapide.
Vraiment, nous, en Côte d'Ivoire, on en vit. Et aujourd'hui,
un fonds qui permet de faire booster des
entrepreneurs, start-up. Voilà, les fonds qu'ils ont reçus pendant le Covid. Ils prennent en charge, par exemple, 200 entrepreneurs pour aller assister à un forum en Turquie aux frais de l'État. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, il y a un soutien pour certains pays.
C'est ce que vous déplorez, il manque ça en Côte d'Ivoire.
Oui, bien sûr.
On fait un appel, il faut dire clairement les choses, il le dit. Non, Axel Emmanuel, alors qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour notamment donner plus de force au secteur de la transformation agricole pour vous en étant jeune ?
En premier lieu, moi je dirais capital risque. Capital risque. Moi, je suis ancien banquier. J'ai démissionné pour devenir artisan chocolatier. Ils n'ont pas accès au crédit parce qu'on demande des garanties tellement énormes. Et il y a des millions d'euros qui peuvent être mis dans les banques en termes de capital risque et donner l'opportunité. Si la banque pense que cette personne a un bon projet, on ne lui demande pas des garanties, on le finance. Mmh. Ouais, ça, c'est peut-être
une solution. Qu'est-ce qu'il manque ? Une autre piste peut-être d'amélioration pour booster le manque de compétitivité de cette agriculture ?
Deuxième point, des machines qui font la transformation viennent très souvent de l'étranger, mais ils sont très taxés à la douane. C'est très aberrant, en fait. Mmh. Voilà, une machine qui rentre dans un pays qui doit créer de l'emploi, elle doit pas être, souvent elle est taxée 70% au prix duquel elle a été achetée en Turquie ou en Chine ou en Europe.
Mmh. Nos entrepreneurs acquiescer. Alors juste avant de donner la parole peut-être à Dr Cheikh Oumar Ba, vous trouvez également, vous, à Aïssata, ces difficultés dont on parle à l'instant avec Axel Emmanuel sont réelles ?
Oui, je suis totalement en phase avec Axel. C'est vraiment le code des investissements au niveau de la zone IMOI qui doivent être révisités. Et il y a un déphasage réel entre les textes qui ont été rédigés depuis les indépendances ou même les réformes qui ont été faites et réalité de ce que les entrepreneurs vivent en fait. Non seulement on est des pays qui ne produisent pas réellement d'emballage ou d'équipement, on dépend de l'import et quand ça arrive, on est taxé. Alors que les produits qui inondent nos marchés sont subventionnés, c'est des entreprises qui sont accompagnées et souvent ils ne payent pas la douane. Mmh. Et nous, on paye la TVA au niveau local.
Absolument.
Exactement. On est taxé partout. Des fois, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup ? Mais malgré tout, on crée une plus-value et sur la chaîne des valeurs, on emploie énormément de personnes. Donc, je suis totalement en phase avec Axel.
Docteur Cheikh Oumar Ba, on vient de brosser un petit peu le tableau de cette problématique de la transformation agricole sur le continent avec nos trois invités ici même. Il y a des millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. L'agriculture semble être un secteur de croissance important. Mais avec toutes les difficultés, est-ce que vous croyez que les jeunes entrepreneurs agricoles peuvent relever le défi de l'autosuffisance en produits alimentaires quand on sait que la majeure partie des produits que nous consommons est importée ?
Oui, parfaitement. Commencez par confirmer ce que vous dites par rapport au taux de croissance démographique moyen de l'Afrique, qui est de 2,7% contre 1% au niveau mondial. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est le seul continent en transition démographique dans le monde, avec ce qui va se traduire d'ici 2100, avec l'arrivée de pratiquement, ce sera presque 40% de la population mondiale qui vivra en Afrique. Et cela est extrêmement important. Maintenant, quand on regarde le potentiel de l'Afrique en termes de matières premières, en termes de capital foncier, capital naturel, on se pose la question de qu'est-ce qui fait que les jeunes n'arrivent pas à être dans ce secteur. Mais la manière dont on le pose, souvent, ne permet pas de résoudre la question. Parce qu'on pense toujours l'agriculture sous l'angle de la production. Il faut penser l'agriculture sous l'angle des chaînes de valeur. Et je crois que tout ce qu'ils sont en train de dire, Axel et Moula et les autres, c'est que effectivement, il faut voir où est-ce que ça pose problème. Et de notre point de vue, il faut dérisquer l'agriculture pour qu'on comprenne que quand on s'investit dans l'agriculture, on peut gagner de l'argent et on peut gagner sans être producteur. On peut être dans les autres maillons de la chaîne. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, c'est comment accompagner cela. C'est par le financement, par l'accès aussi à certaines infrastructures. C'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes en Afrique, même s'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits en termes de routes, en termes de magasins de stockage, qui restent aussi à... parce que les produits périssent, parce qu'on perd presque 30% de la production. C'est énorme. Rien que le fait déjà de réduire ce qu'on perd en post-récolte, ça permettra déjà d'améliorer la production à mettre sur le marché. Et deuxièmement, je crois que le problème des jeunes, souvent, c'est un problème, un double problème. Hein. C'est un problème d'abord de financement, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait des garanties, etc. Il y a des efforts qui sont faits, mais le problème reste entier, parce que les jeunes ont besoin d'être formés. Et souvent, ce que l'école forme, ce n'est pas des entrepreneurs. On forme parfois plus des littéraires, on forme plus... des scientifiques, mais qui ne sont pas forcément orientés.
C'est pas en adéquation avec le marché, les besoins du marché spécifique. Docteur Cherroumar, peut-être une précision aussi. On a parlé de la problématique de la formation, de l'accompagnement, du financement et des infrastructures. Est-ce qu'il n'y a pas toujours aussi ce problème d'image de l'agriculture vue de façon négative par les jeunes Africains?
Oui, ça pose la problématique de modernisation des exploitations familiales. Parce qu'on sait que l'Afrique doit compter d'abord sur la transformation de son écosystème. Et on se rend compte, avec le potentiel qu'il y a, si on ne modernise pas les exploitations familiales, quand vous voyez vos parents qui sont avec du matériel totalement désuet, qui souffrent pour produire le peu, pour nourrir la famille, et qui arrivent à peine à nourrir la famille, ça ne vous encourage pas de vous investir dans l'agriculture. Et à l'époque même, on disait que tous ceux qui ne réussissent pas vont aller faire de l'agriculture.
Ouais, ce qui est aujourd'hui totalement l'inverse, c'est ça. On le voit avec le parcours de ces jeunes qui sont avec nous. Vous restez avec nous, docteur Cherroumar Ba. Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI? On parle d'entrepreneuriat agricole avec Aissata Moulay et Axel Emmanuel. Tous les trois ont des activités agricoles très intéressantes sur le continent. On écoute d'abord Serge Beno Mokodo. Créateur. Serge Beno.
Let's see.
Serge Benoît Mokodo sur RFI. Vous écoutez alors On dit quoi ? Portrait à présent de Salam Badienne, PDG de Biocène. Elle a 34 ans et depuis 2017, elle s'est lancée corps et âme dans la production et la transformation de produits agroalimentaires et cosmétiques à partir de matières premières issues de la récolte et de la cueillette locale. Pain de singe, bissap, mille fognos, pour ne citer que. Océane Kouassi, à l'une de nos correspondantes ici à Paris, est allée à sa rencontre.
Extraire les bienfaits de la terre pour favoriser la création de produits agroalimentaires et cosmétiques, c'est ce que propose l'entreprise sénégalaise Biocène. À sa tête, la jeune entrepreneure Salam Badienne, adepte d'un marché viable, sain et 100% africain, la chef d'entreprise poursuit le rêve d'une production locale florissante et libre de tout préjugé.
Depuis 2017, j'ai créé Biocène et j'ai décidé vraiment de travailler aussi cet aspect agroalimentaire-là, qui est fortement demandé aujourd'hui, tant bien au niveau national qu'international, parce qu'aujourd'hui, on fait quasiment 70% de notre production au niveau international, en France, en Hollande, dans toute l'Europe en général, aussi aux États-Unis. J'ai même vendu de la poudre de baobab au Japon, des produits vraiment healthy, bien pour la santé, et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Au Sénégal, on a beaucoup, beaucoup d'hypertendus, beaucoup de diabétiques. Avec certains instituts avec lesquels on travaille à l'international, c'est reconnu qu'aujourd'hui, l'hibiscus régule la tension artérielle. Donc voilà.
Avec la volonté d'avoir un impact économique mais aussi social, Salam Badienne souhaite redéfinir la place des femmes dans la production agroalimentaire.
On est vraiment aussi sur la formation des femmes. Donc on les forme sur des pratiques, les bonnes pratiques d'hygiène. On les forme sur de bonnes gestions. On veut vraiment qu'un temps soit peu, qu'elles puissent avoir les bénéfices de ce qu'on fait. Ce que j'ai souvent, mon modèle, c'est ma maman. Elle vient d'une famille très pauvre et j'ai grandi et vécu dans les plus grandes écoles du Sénégal et j'ai fait mes études à l'étranger. C'est parce qu'elle s'est battue. Je n'ai pas eu à vivre ce qu'elle a vécu quelque part en tant que femme entrepreneur parce que j'ai déjà trouvé une certaine assise et j'ai vécu avec ça, j'ai grandi avec ça. Donc l'entrepreneuriat, je dirais, c'est dans le sang. C'est vrai que c'est pas forcément évident et justement, le défi aujourd'hui, plus que tout, c'est ça. Les gros industriels qu'on entend, c'est souvent des hommes. On entend beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat, mais pas à un niveau assez grand. Et c'est vraiment ce que je veux faire aujourd'hui.
Aujourd'hui, en plein essor, le secteur agroalimentaire séduit, mais peine à trouver grâce auprès de la jeunesse africaine. Un enjeu à ne pas écarter, selon la jeune entrepreneur.
On a beaucoup de jeunes qui pensent à émigrer, à aller en Europe, aux États-Unis, etc. Il y a énormément de potentiel au Sénégal. Souvent, quand je vais dans la sous-région ou même à Dakar, je vois beaucoup de jeunes sans emploi qui attendent un peu que les choses soient faites du gouvernement, mais il faut se lever et travailler, tout simplement. Quand j'ai quelque chose, quand j'ai un appui des institutions, ben je dis merci. Mais ce n'est pas les institutions qui nous font. Il faut vraiment croire en soi et faire en sorte que ça fonctionne. Il y a énormément de choses en Afrique. Il y a du boui, du bissabouï, du baobab, etc. Mais il y a autre chose. Il y a du mad, il y a de la mangue qui est en train de pourrir en Casamance. Il y a beaucoup de choses à faire.
Pour Salam Badienne, les défis sont de taille, mais pas insurmontables. Entreprise familiale à l'origine, Biocène souhaite poursuivre le développement de structures durables avec une empreinte culturelle forte.
Aujourd'hui, ce que je veux réellement, c'est m'industrialiser. L'offre ne répond pas à la demande. C'est ce qui nous manque en Afrique, c'est des champions industriels, des personnes qui pourront passer le niveau de PME, PMI. J'entends beaucoup les petites et moyennes entreprises. Je ne veux pas finir et vivre toute ma vie en étant petite et moyenne entreprise. Non, j'ai une vision beaucoup plus grande que ça, pouvoir fournir plus à mes clients qui attendent le produit aujourd'hui. Donc c'est continuer ce combat-là pour que les Sénégalais qui sont et la diaspora africaine en général, qui sont un peu partout en Europe, puissent retrouver le produit, mais aussi montrer que c'est des produits qui sont très nutritifs, qui peuvent être l'équivalent du quinoa aujourd'hui. Par exemple, le mil, c'est un produit sans gluten qui peut être substitué au blé. Voilà, donc c'est vraiment ça.
Merci infiniment pour ce reportage, Océane Kouassi, qui nous a fait le portrait de la fondatrice de Biocène. Peut-être une réaction du docteur Cheikh Oumar Ba, chercheur associé et directeur du think tank africain Initiative Prospective Agricole et Rurale IPAR. Qu'avez-vous retenu de ce reportage, docteur Cheikh Oumar Ba ?
Oui, bon, je suis chercheur à l'IPAR, directeur exécutif de l'IPAR, effectivement. En fait, ce que je retiens, c'est que la question de transformation et surtout l'entrepreneuriat doit être d'abord un secteur salutaire pour l'Afrique, surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Quand on a une population majoritairement jeune, on doit s'assurer là où ils pourraient s'investir. Et je crois que ces types d'initiatives sont à encourager. Maintenant, la question, c'est comment amplifier, parce que souvent, on a de très bonnes choses isolées. Et le problème, c'est d'aller à l'échelle. Et ça limite effectivement l'impact que nous pouvons avoir, parce que tant qu'on n'a pas massivement des jeunes qui vraiment sont dans ces secteurs de transformation, mais ça suppose qu'on produit suffisamment pour qu'ils transforment. Ils ont parlé effectivement de cette expérience montre aussi les pertes post-récolte par rapport à la mangue, le gaspillage. Je crois que c'est autant d'éléments aujourd'hui à recentrer. Quand on sait qu'on importe, un pays comme le Sénégal importe presque 800 milliards de francs CFA. Rien que le riz, on importe 246 milliards par an. C'est énorme.
Et aujourd'hui, le pays est autosuffisant en riz chez lui. Donc ouais. C'est vraiment aberrant d'entendre ce type de chiffre, 800 milliards d'importation.
Il y a des semences de riz qui poussent en 3 mois.
Au Sénégal, en plus, en 3-4 mois. Donc, vraiment, c'est vrai qu'on s'interroge, en fait, finalement, comment sont raisonnées nos politiques quand on voit qu'il y a des productions locales qui ne sont pas forcément bien valorisées. C'est ça aussi l'enjeu, se dire qu'on va transformer et finalement, avec peu ou parfois pas de résultats escomptés, docteur Cheikh Oumar Ba.
Oui, il y a plusieurs leviers. Je pense qu'un des leviers, effectivement, si on veut accompagner cette dynamique, c'est aussi de s'assurer qu'il y a un rôle des consommateurs. Parce qu'on n'est pas obligé seulement de consommer que le riz. On peut aujourd'hui améliorer et faire des offres aux urbains pour qu'ils comprennent aussi que la souveraineté, avec ce qui se passe au niveau mondial, avec la guerre en Ukraine, Covid et tout ce qui se passe avec des problèmes d'importation, il faudrait qu'on arrive aussi à changer nos habitudes alimentaires.
Ah oui, on voit que les pays font une préférence nationale, effectivement, lors de conflits. On l'a vu pour la Russie et l'Ukraine, ce conflit-là, mais aussi durant la Covid. Ça a été une problématique de nombreuses fois abordée. Les enjeux sont donc importants. On va, si vous me le permettez, docteur Cheikh Oumar Ba, laisser Dame Cajou intervenir dans cette discussion. Elle est agronome de formation et fondatrice de Lady Cajou, entreprise spécialisée dans la promotion des dérivés du cajou depuis 2-3 ans maintenant. Bonjour Dame Cajou, c'est votre surnom mais on va rester comme ça.
Bonjour.
Alors, de quels produits dérivés parle-t-on ? On avait à l'instant Moulay qui nous expliquait les bienfaits de son jus à base de pommes de cajou, mais il n'y a pas que ça autour de cette anacardier.
Effectivement, il n'y a pas que ça. Il y a le jus de pommes de cajou. Il y a la liqueur de pommes de cajou, il y a la confiture de pommes de cajou, il y a du savon, il y a de l'huile à base d'amandes de cajou, il y a du beurre de cajou pour le corps et pour les cheveux. Il y a les amandes aussi également, des amandes salées, sucrées, enrobées, caramélisées. Il y a de la pâte de cajou qu'on peut cuisiner aussi comme la pâte d'arachide.
Alors, voilà. des produits, il y a du jus, des savons, du lait
et du lait de cajou,
voilà. Ouais. Pour les véganes, ça plaît.
C'est aussi utilisé comme viande, comme substitut pour les véganes aussi.
Donc, de nombreuses, vraiment, possibilités d'utiliser cet anacardier. Alors, Dame Cajou, comment on fait au niveau de la transformation, quand on passe par exemple par du jus ou du savon? Est-ce que les procédés de transformation sont plus lourds pour certains produits?
Effectivement, les procédés sont lourds. Quand on prend, par exemple, la transformation de la noir en amande, et c'est vraiment un procédé qui est lourd et qui pèse beaucoup financièrement. En ce qui concerne le jus, par exemple, il y a pas mal de produits qu'on utilise, surtout l'eau, parce que c'est l'eau qui est vraiment la denrée qu'on utilise le plus par rapport au lavage du fruit pour s'assurer que le fruit est bon et qu'il est propre. Mais à part ça, quand même, en termes de machine, ça va quand même avec la pomme de cajou. Ça va.
Dame Cajou, vous parliez tout à l'heure de savon et de pâte de cajou, dont je viens d'apprendre la connaissance. Quel est votre produit phare aujourd'hui? Est-ce que ce type de produit parle aux consommateurs locaux ivoiriens?
Oui, il faut dire quand même que chez nous, les produits phares, ce sont les produits cosmétiques. Donc le savon et l'huile de cajou, en plus du beurre pour le corps et les cheveux, ce sont les produits auxquels les femmes s'intéressent de plus en plus, parce que ce sont des produits naturels et ce sont des produits qui nous parlent et qui nous apportent beaucoup de résultats. On a vraiment beaucoup de retours positifs pour toutes les femmes qui ont des problèmes de peau, qui ont des problèmes acnéiques, qui ont des problèmes d'hyperpigmentation, qui ont des fards, qui ont des problèmes liés aussi à la dépigmentation. Donc avec ces produits-là quand même, la plupart de nos retours sont positifs.
Mmh. Et vous ciblez, vous, le marché local. Alors d'abord, pourquoi est-ce facile de vulgariser ce type de produit avec notamment la bourse des Ivoiriens, sachant que le produit coûte cher en transformation?
Oui, effectivement, moi je vis le marché local principalement, parce que j'estime qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas produire plus d'un million de tonnes de cajou et puis ne pas consommer le cajou de manière locale. Alors pour moi, l'idée, c'était de créer une marque avec des produits qui soient accessibles, qui soient attrayants et dont les coûts permettent à l'Ivoirien lambda en fait, de s'en procurer.
Hmm. Dame Cajou, pour vous, aujourd'hui, la production est encore au stade un peu artisanal. Comment vous comptez passer à l'échelle supérieure avec une, peut-être un volet industriel plus important?
Effectivement, notre production elle est un peu artisanale. Donc... pour le moment, on table aussi sur deux choses pour arriver au niveau de l'industrialisation. On doit d'abord être une plateforme clé où on peut retrouver tous les produits dérivés de cajou. Parce qu'effectivement, nous avons certains produits, mais moi j'ai pu retrouver répertorier d'autres produits sur le marché. Par exemple, des assaisonnements à base de cajou, de la pâte à tartiner, de la mayonnaise. Voilà, et des aliments de bétail. Donc, nous, on aimerait se positionner comme une plateforme où on retrouve tous les produits dérivés du cajou made in Côte d'Ivoire. Et ensuite, maintenant, passer à une industrialisation à échelle pour pouvoir toucher le maximum de personnes.
Merci infiniment pour cette participation, Dame Cajou, et bon courage à vous. Vous restez avec nous sur RFI. Vous écoutez Alors on dit quoi ? On parle d'entrepreneuriat agricole. La transformation des matières premières est primordiale pour apporter de la valeur ajoutée. On en parle dans quelques instants. D'abord, on écoute KS Bloom, Commando.
C'est KS, qui allumer la lumière. Je salue les disciples, mon papa, c'est Jésus, mon guide, c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques. Oh, ils vont se rallier. C'est l'heure du royaume, mon ami. Ça, j'y crois, dire, dire comme du manioc. On est solide de toutes les manières, comme des aliens. Papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Y'a les go, 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 go. Du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous les ténèbres des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là, ils croient qu'ils sont gammés. Dites-leur qu'à la croix, notre parcours ne les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 ne réveillez pas le lion qui dort.
On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie.
Allons-y.
Commando, vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI et on parle de transformation agricole, ce que fait Marietou Diarra au Mali. Marietou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de l'entreprise Agribio Mali, qui représente notamment la marque Kenya Nutrition, spécialisée dans les cocktails de tisane. Vous êtes lancée dans l'agriculture bio depuis 2017. Est-ce que l'agriculture bio, d'ailleurs, séduit au Mali?
Oui, au début, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'enjeux parce que les Maliens lambda ne connaissaient pas les propriétés médicinales, la valorisation des produits bio. Mais ce qui est en train de changer maintenant, parce que avec la prolifération des maladies comme le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, la tension artérielle, qui sont des maladies dues à la consommation des produits à base d'engrais chimiques et de pesticides, maintenant, de plus en plus de personnes s'intéressent à la santé, à l'alimentation saine. Donc, on veut dire qu'aujourd'hui, nous avons gagné beaucoup de terrain pour la promotion de l'agriculture bio au Mali.
Et ce qui est intéressant avec vous, Marietou, c'est que tous ces produits transformés, le kenkiliba, la menthe, la citronnelle, la fraise, l'ananas, enfin, j'en passe, hein, tout est bio et vous êtes justement certifié bio local. Alors, pourquoi le choix d'avoir ce label?
Oui, le choix d'avoir ce label, c'est que nous sommes une jeune entreprise de transformation agroalimentaire. Le bio label étant bio local est une certification qui certifie vraiment les produits localement et aussi c'est moins cher et c'est adapté à un Malien lambda, à une jeune entreprise comme nous qui n'est pas aussi cher comme la certification de par exemple Ecocert qui est vraiment un coût énormément élevé.
Et une question, Marietou, par rapport aux difficultés de la transformation que vous rencontrez spécifiquement au Mali.
Oui, nous avons des difficultés vu que l'obtention de produits bio est un peu difficile. Par exemple, les produits conventionnels, la culture peut durer 2 à 3 semaines. Mais avec l'agriculture bio, ce que le conventionnel peut donner à 2 à 3 semaines, le bio peut donner peut-être en 1 mois. Des fois, c'est un peu compliqué de se procurer des produits bio.
Merci infiniment pour ce témoignage. Aïssata, vous aussi, vous êtes malienne, vous connaissez peut-être ces problématiques autour de l'agro-industrie au Mali. Peut-être une réaction sur le témoignage de votre consœur malienne.
Bon, c'est vrai, les problématiques qu'elle soulevait par rapport à la certification bio, c'est pas évident. Pour avoir le label bio avec Ecocert ou d'autres organismes certificateurs à l'échelle internationale, et ça demande quand même beaucoup de rigueur avec un cahier de charges plus complexe et même de l'investissement, que ce soit au niveau de l'organisme certificateur, aussi de l'investissement dans des compétences de très haut niveau.
Donc c'est pour ça qu'on passe par des ONG pour labelliser.
Exactement,
de façon
pour labelliser certains produits. Et derrière, l'Afrique aussi doit comprendre qu'elle doit travailler sur ses propres labels. C'est très important parce que Ecocert, beaucoup de labels, même le commerce équitable, sont des labels finalement importés, alors qu'on a beaucoup de savoir-faire, on a beaucoup de pratiques à valoriser. Et avant de commencer l'aventure Zaban, j'étais chez Hafnor Certification comme cadre supérieur. Et par exemple, ici en France, les labels, c'est des lobbies politiques dans les régions. C'est super important. Et les marques qui ont certains labels au niveau des régions sont automatiquement référencées dans les rayons.
Un argument de vente, finalement, important.
C'est un argument de vente, de protection, de beaucoup de choses et beaucoup de significations. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ces politiques-là, à ces visions au niveau africain et que ça devient vraiment des décisions au niveau de la gouvernance de nos États, en fait.
Aïssata, vous, selon vous, est-ce qu'il faut privilégier des cultures pour l'export ou au contraire les productions vivrières destinées au marché local, voire régional? Quelle est la stratégie de Zaban par rapport à cela? Qu'est-ce qui est le plus rentable pour votre modèle économique?
Et on fait les deux. On n'inclut pas du tout le marché local. On a beaucoup de produits destinés au marché local. On n'inclut pas non plus le marché international. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est la seule mine d'or qui propose actuellement des produits vierges, des produits de qualité, des produits sains. On l'a vu avec la crise Covid. Les gens se sont jetés sur les produits africains. Même pas quelques minutes, Salamba parlait de l'hibiscus. Quand aujourd'hui, on part dans les pharmacies, et dans les parapharmacies, l'hibiscus, c'est le premier ingrédient de beaucoup de produits draineurs qui nettoient le corps, qui baissent le taux de sucre. Et voilà. Donc, l'hibiscus n'est pas le seul ingrédient. On en a énormément comme ça. Et partant de là, on est obligé de créer une valeur ajoutée pour le marché local et des produits de qualité pour le marché international parce qu'il y a une demande. Le Made in Africa plaît, le Made in Africa séduit et le Made in Africa, c'est un secteur à prendre.
Mais est-ce que c'est possible pour tous les secteurs d'activité? Pour vous, par exemple, Axel Emmanuel, vous produisez du cacao, vous êtes artisan chocolatier. Le marché, malgré l'essor de la classe moyenne et de l'émergence d'une appétence pour le chocolat dans la sous-région, on dit qu'un Ivoirien consomme 150 grammes de chocolat en moyenne par habitant et 1 kilo par an et par habitant au Sénégal et au Cameroun, par exemple. Quelle stratégie vous faites pour vous pénétrer le marché ivoirien, pour vulgariser le produit?
C'est tout simple. C'est le cacao, il date du siècle dernier, qui rentre en Afrique du siècle dernier. Donc, même dans, sociologiquement, dans les langues de Côte d'Ivoire, il n'y a même pas le thème cacao. Donc, ils ne sont pas familiers à ça. Par contre, il y a des produits dérivés du cacao qui sont déjà dans les habitudes alimentaires. La boîte de poudre de cacao. Petit-déj, voilà, dans beaucoup de foyers, sur 10 pâtés de maison, vous en trouverez peut-être 8 sur 8 de ces boîtes-là, par exemple. Donc, la poudre de cacao, mais pas le chocolat.
Mais pour c'est les ça, tablettes de chocolat que vous valorisez, justement.
Mais non, moi, je ne fais pas que ça. Je viens là pour au SIA pour présenter là ma bière au cacao, par exemple. Donc, le cacao, il a énormément de produits dérivés. On a encore 50 ans de recherche en R&D.
Vous proposez des tablettes.
Des tablettes, maintenant, des noix de cajou enrobées de chocolat des aussi, de la poudre de cacao, du jus de cacao. Vraiment, beaucoup, beaucoup de produits
et
à base de cacao.
Et pour quelle cible, alors? Qui est-ce que vous ciblez, vous, principalement?
La cible, en général, on a démarré avec les entreprises. Donc, je faisais le chocolat pour Air France depuis 2016, customisation et tout. Après, on est passé sur un public un peu plus large. Et puis, récemment, j'ai fait aussi, en Côte d'Ivoire, la tablette de chocolat la moins chère
sur Côte d'Ivoire, du marché.
Voilà, qui est moins de 500 francs.
Et vous
donc
parliez...
Donc ça, c'est...
Voilà, ouais, c'est pour pénétrer ce marché.
Pour pénétrer ce marché-là. Sinon, en général, nos tablettes, c'est pour vraiment beaucoup de classe moyenne quand même. Parce que pour nous, moi, mes tablettes, c'est vraiment ces chocolats, c'est le chocolat pour nos militants. C'est pas un chocolat ordinaire. J'ai formé 2000 femmes de planteurs de cacao dans toute la Côte d'Ivoire et en Afrique à être alliées dans la chaîne de valeur et elles transforment elles-mêmes le cacao. Il a été mis en exergue notre business model sur Netflix, Rotten Bitter Chocolate. C'est un chocolat un peu différent. Donc, c'est nos chocolats, c'est pour nos militants, ceux qui croient nos valeurs et qui achètent notre... voilà.
Vous maintenant, parliez à l'instant du volet recherche et développement.
Oui.
Vous investissez énormément sur ce volet-là pour permettre d'innover.
Oui, par exemple. Parce que la bière, ça, c'est dans les habitudes de consommation de tous les Africains. Donc, une bière au cacao, ça plaît direct.
Vous avez débuté la vente de la commercialisation de cette bière.
Par contre, on l'a brassée ici en France. En l'été dernier, ça a été un carton. On retourne avec ça à Abidjan. Ça plaît. Voilà, donc on essaie de diversifier un peu.
Autre volet un peu problématique autour de ce cacao, quand même, c'est la question de l'environnement. Comment vous tentez de pallier à cette question de la déforestation? On dit qu'en Côte d'Ivoire, il y avait 16 millions d'hectares en 60. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3.
Oui, vous, 80% de la forêt ivoirienne a disparu.
Cette question de la dimension de l'écologie, comment vous l'intégrez pour assurer un impact sociétal plutôt positif, même si c'est compliqué?
Oui, alors déjà, ils ont commencé déjà de sensibiliser pour arrêter de couper les arbres, ça c'est le premier, et puis replanter. Il y a le programme gouvernement qui est en train de faire en sorte de replanter, de faire un reboisement. Mais le cacao, si on y prend garde, beaucoup d'espèces s'accordent à dire en 2050, il va disparaître. Il va disparaître dans le sens qu'il va se raréfier. Tous les planteurs, ils sont 1 million de planteurs, majoritairement, ils ont plus de 40 à 50 ans. Donc, en 2050, dans 30 ans, leurs enfants vont pas accepter de payer, d'avoir le cacao qui a 1 euro le kilo et des broutilles.
Oui, la question de la rémunération des producteurs aussi pose problème.
La rémunération des producteurs fait que le cacao, c'est vraiment, ça fonctionne pas. On les maintient dans la misère et 80% de la récolte nationale est achetée un an à l'avance. La récolte de 2024, par exemple, elle est déjà achetée par les multinationales. Il y a une mainmise.
Parlons justement de ces multinationales. La Côte d'Ivoire, c'est le numéro 1 mondial de la production de cacao et ce cacao est acheté par les Occidentaux, hein. C'est l'Europe qui achète à 67% ses exportations et ils imposent une norme cacao durable qui sera mise en place l'année prochaine à partir de 2024. Comment vous arrivez-vous à intégrer, à appréhender ces nouvelles normes très fermes au niveau de la lutte contre la déforestation, les revenus des producteurs qu'on mentionnait à l'instant?
Exactement, nous, dans moi je prends le cacao dans des zones qui ne sont pas déforestées, c'est ça notre label, ça s'appelle la Cocoa Revolution. On est en agroforesterie, sur un hectare, on va jusqu'à 80 grands arbres, en plus des cacaoyers. C'est-à-dire, vous avez 1300 pieds de cacaoyers.
Donc, vous voyez cette norme comme une chose plutôt positive
pour
vous?
C'est très positif. Sinon, la forêt a disparu. C'est un constat très, très, très amer. Et il faut attirer l'attention parce que il y a le réchauffement climatique aussi. tous les 70% des fèves de cacao de ce monde viennent du continent africain et ils sont séchés au soleil. Donc, le jour où il n'y a pas de soleil, en Europe, ils n'auront pas de chocolat. Mmh. C'est un fait direct. En 2050, ça
comment va disparaître. Comment vous voyez l'avenir de votre secteur, vous, en quelques
oui,
mots?
Oui, il faut sensibiliser, sinon on prendra un grand coup. Et ça sera dommage parce que moi, si le chocolat disparaît, je raccroche.
Non, on vous garde nous, Axel Emmanuel. Moulay, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Avant de remettre la parole à Aissata et Dr Sharon Marba, peut-être un mot, vous. Qu'est-ce qu'il est important de retenir pour vous sur cette question de la transformation agricole?
Alors, je pense qu'il est important de retenir peut-être quelques aspects. Déjà, l'attractivité du secteur, sensibiliser davantage pour que davantage de jeunes s'engagent. Alors, on a souvent tendance à penser, quand on est dans le secteur, que bon, on a envie de tout faire et donc peut-être que ce serait une mauvaise chose que d'autres viennent dans le secteur. Que nenni. Donc, il faut encourager davantage de jeunes à venir. Il faut rendre le secteur attractif. Moi, il y a quelque chose que je déplore souvent dans les communications qui sont faites autour de la transformation en Afrique, c'est que très souvent, on communique avec des personnes de notre âge, parfois, et alors qu'on va attirer des jeunes. Donc,
d'où si l'importance alors, on dit quoi? Il faut le dire. Donner la parole à la jeunesse,
pour justement
s'exprimer.
C'est justement ce que je voulais dire. Aussi, davantage penser africain, penser global. Alors, le Sénégal, Casa Delis, qui produit des jus de pommes de cajou au Sénégal, c'est un petit marché. Alors, on fera très vite de le saturer et ensuite il faut qu'on regarde ailleurs. Donc si à côté d'autres pays ne le font pas, ce serait bien que nos produits puissent aller là-bas, mais c'est la croix et la bannière pour déjà moi, Sénégalais, de traverser à la frontière du Ghana vers le Togo. J'ai eu l'expérience en janvier, ça a été difficile. Alors pour les produits
encore plus difficile. Peut-être qu'avec la zone de libre-échange, les cas dont on parle, il y aura des perspectives. Bon, c'est un autre débat.
Néanmoins, on verra. Pensez à l'intégration et à l'attractivité du secteur.
Bon, nous, on vend nos tablettes de chocolat au Sénégal, hein, sans problème. Hein.
Mais voilà.
C'est Salamba qui était distributeur.
C'est Salamba Diagne qu'on a eu dans le reportage à l'instant. Un mot de la fin, Aissata Diakité. Zaban a de grandes ambitions, on le sait. Mais pour vous, plus globalement, l'importance de la jeunesse dans ce combat pour la transformation agricole africaine?
Et la transformation africaine passe par la jeunesse et les femmes agricoles, les femmes agricultrices qui sont positionnées sur toutes nos chaînes de valeur agricole. Donc,
avec 50 000 femmes.
Exactement. Un mot de la fin, c'est vraiment de soutenir encore cette filière-là. Il faut que, malheureusement, c'est nous, on est entrepreneurs. On est dépendant de beaucoup de personnes qui prennent des décisions. Il faut qu'ils comprennent que notre souveraineté passe par le secteur agricole, qu'on investit plus dans le secteur agricole, qu'on soutient l'entrepreneuriat et qu'on fasse aussi des réformes de nos codes des investissements pour qu'on puisse avoir des entreprises championnes nationales, championne sous-régionale et championne à l'international. C'est possible.
Merci infiniment. Merci à vous, Dr Sharon Marba. Vous étiez en ligne depuis Dakar avec nous. Vous êtes chercheur associé et directeur du think tank africain IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Vous êtes également président du réseau des think tanks de l'UMOA.
Merci beaissoup.
Et merci à vous, chers invités, Aissata Diakité, fondatrice de Zaban, du groupe Zaban, Moulay Biaï, cofondateur des marques Casa Delis et Malanta Cosmetics, ainsi qu'Axel Emmanuel Gbaou, artisan chocolatier ivoirien, fondateur de la marque Le Chocolatier Ivoirien. Merci.
Et on vous invite à passer sur le stand.
Eh ben, merci infiniment.
Voilà, pour déguster nos chocolats, délicieux chocolats.
Merci infiniment, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci, bien entendu, à toute mon équipe, Beverly, Guillaume et Ablaï Gueye, ainsi que Daba. Je vous souhaite un excellent week-end sur RFI. Oumnon Ragongol. À bientôt.